Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Nous sommes mercredi et comme chaque mercredi à 16h, vous avez rendez-vous avec le magazine Campus Lille Info, un magazine qui vous présente les différentes facettes de l'université et de la recherche. Aujourd'hui, nous allons parler recherche, nous allons parler de transport, voilà, la recherche sur les transports, avec notre invité qui s'appelle Monsieur Pierre Boulet. Bonjour Monsieur Boulet.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur en informatique à l'Université de Lille Sciences et Technologies depuis 2003 et directeur adjoint de la Fédération de recherche transport terrestre et mobilité depuis 2016, date de sa création. Vous avez aussi d'autres responsabilités, si vous voulez qu'on les présente au fil de cet entretien, n'hésitez pas. Donc tout d'abord, bienvenue, j'allais dire que c'est la deuxième fois que je vous accueille ici.
Oui, on s'est vu il y a un an déjà.
Voilà, donc un an ça passe vite et au niveau de transport, c'est forcément là, ça court encore davantage.
Ah ben ça nous occupe beaucoup, ça nous fait beaucoup courir, effectivement.
Voilà. Donc, on va quand même dire que notre région, hein, Hauts-de-France, se prétend et l'est sans doute comme, on va dire, une région au cœur de l'Europe. Et que pour être au cœur de l'Europe, forcément, les transports, ça aide.
Oui, alors effectivement, le positionnement géographique est très intéressant et le positionnement et socio-économique aussi de la région avec une région très impliquée dans l'industrie ferroviaire. On est la première région d'Europe sur la construction industrie ferroviaire. C'est 10 000 emplois, 40% de la production française. Sur l'automobile, on a beaucoup de construction automobile aussi, 70 000 emplois. 30% de la production nationale, c'est la deuxième région française et le troisième pôle d'activité qui concerne notre fédération sur les transports terrestres et la mobilité, c'est la logistique, les activités logistiques et transports. 71 000 emplois aussi dans la région. Donc voilà, la région a un fort potentiel économique, une forte activité économique autour des transports. Et donc la recherche se devait d'être présente sur ce créneau aussi.
Alors, dans ces trois directions hein, que vous venez de mentionner, hein, le ferroviaire, l'aspect route, voilà, et puis l'aspect logistique, hein, l'automobile, voilà, on peut dire que pour évoluer, pour être plus rentable peut-être, on a besoin de recherche, on a besoin de trouver de nouveaux moyens, des outils plus performants, et tout cela, ça s'étudie où ?
Alors ça s'étudie dans les organismes de recherche et dans les universités, au sein de laboratoires. Alors cette fédération, elle fédère quatre unités mixtes de recherche entre le CNRS et les organismes locaux, donc les universités, les écoles d'ingénieurs, localisées à moitié à Valenciennes, à moitié à Lille, pratiquement moitié sur les forces humaines de recherche hein, sur ce domaine-là. Donc à Valenciennes, on va retrouver l'AMIH, qui regroupe des équipes qui travaillent en informatique, en automatique, en mécanique aussi. Et puis, à Lille, on va retrouver Cristal, dont je fais partie, et qui est un laboratoire qui s'intéresse à l'automatique, à l'informatique, au traitement du signal. Le LML, laboratoire de mécanique de Lille, avec de la mécanique des solides, de la mécanique des fluides. Et puis l'UEMN, qui lui est à cheval sur Lille et Valenciennes, et qui s'intéresse aux micro et nanotechnologies.
Voilà, donc ces pôles, on va dire, sont regroupés dans cette fédération de recherche, CNRS Transport Terrestre et Mobilité. Et donc, est-ce qu'on peut dire que cette unité, on va dire, globale, est une des plus importantes de France, voire d'Europe ?
J'avoue mon ignorance sur la question. En tout cas, thématiquement, en France, il ne doit pas y en avoir beaucoup, puisque les laboratoires sont plutôt disciplinaires. Donc cette fédération est assez originale dans le sens où elle n'est pas disciplinaire, mais elle est applicative, sur un domaine applicatif. En Europe, il y a évidemment d'autres centres de recherche, et même dans la région. Il y a dans le projet du contrat de projet État-Région ELSAT 2020, qui fédère toutes les activités en recherche sur les transports dans la région, il y a 27 laboratoires. Donc là, on n'en est que 4. Mais à 4, on représente à peu près, je crois que c'est 56% des forces d'ELSAT 2020. Donc c'est les 4 plus gros laboratoires régionaux travaillant sur ce domaine d'activité.
Donc de la recherche de pointe pour des industries de pointe, qu'est-ce qu'on peut définir comme étant de pointe et quelles sont les conditions pour qu'un tel label serait un jour peut-être décerné ?
Alors, on travaille... Le positionnement de la fédération est un positionnement de recherche fondamentale. donc plutôt amont, en lien avec évidemment l'industrie, mais on a par exemple le pôle de compétitivité Itrans en région, on a l'IRT Rallenium aussi sur le pôle de recherche technologique sur le transport ferroviaire. Donc la fédération, elle, se positionne en amont par rapport à ces pôles qui sont plus proches de l'industrie. Donc on fait de la recherche d'excellence sur nos domaines d'activité qui sont de domaines disciplinaires, informatique, automatique, traitement du signal, mécanique. Ces recherches de pointe trouvent une application, par exemple, en transport. Donc on ne s'interdit pas à faire des recherches très amont, mais qui ont un potentiel d'application dans les transports. À tout niveau, ça peut être dans les matériaux pour construire donc au niveau de la mécanique, dans les matériaux pour construire les trains ou les voitures du futur, tout ce qui est intelligence artificielle pour la voiture connectée. On va retrouver les télécommunications aussi, toutes les voitures qui vont être connectées entre elles avec des routes connectées aussi. Tout ça, les systèmes de transport intelligents nécessitent des compétences de base en télécom. On va retrouver aussi tout ce qui est contrôle-commande pour l'automatique. Par exemple, ça a énormément d'applications pour le contrôle des moteurs, des véhicules, des flottes de véhicules, pour tout ce qui est drone aussi. On va trouver des flottes de véhicules qui vont se suivre les uns les autres, des flottes de camions, des flottes de... On a un projet qui a été assez remarquable de robots qui permet de transporter des containers dans les ports et qui sont télécommandés à distance. Donc tout ça, ça fait appel à la robotique, à de l'automatique, à de l'informatique, etc.
Voilà, donc on a, Pierre Boulet, une recherche qui est calée sur une grosse industrie. Comment se passent les rapports justement entre la recherche et l'industrie, voire même entre le ministère qui vous dirige ?
Ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on participe à des projets collaboratifs ensemble. Avec les gros industriels du milieu et des petites entreprises et des start-up. Donc on travaille avec Bombardier, avec Alstom, avec Peugeot, Renault, Thales, etc., Valeo. Voilà, aussi bien des grands constructeurs que des équipementiers, que des start-up sur des domaines proches du transport.
Alors vous citez des noms, hein, des entreprises qui ont un rayonnement et une action à l'international. Est-ce que cette recherche qui est en région a des applications qui sont hors région, même hors de France ?
Oui, bien sûr, bien sûr. On participe avec ces industriels, avec nos partenaires européens en particulier, à un certain nombre de projets européens. Donc toutes ces recherches sont fondamentalement internationales et européennes dès le départ.
Et donc dans l'autre sens aussi, en Europe, voire pourquoi pas dans d'autres pays du monde, il y a une mise en phase ou une collaboration qui existe ?
Alors, pas formalisé avec la fédération en tant que telle, formalisé avec certaines équipes de nos laboratoires, oui, sous forme de projets européens typiquement. Oui,
oui. Alors, on est dans un moment quand même au niveau de l'environnement, hein, où on a tendance à compter comment faire un peu d'économie en termes notamment de transport et aussi au niveau de la pollution, bien sûr. Hein. Est-ce qu'on avance beaucoup dans ces domaines-là ?
C'est un des axes de développement fort de nos recherches. Essayer de faire des transports plus économiques, avec des matériaux plus légers, avec des meilleures lois de commande, avec une meilleure gestion des flux de personnes, de marchandises, etc. Donc tout ça, c'est des problèmes qui nous intéressent fortement. On travaille en fait dans cette fédération à essayer de créer des innovations en regroupant des disciplines différentes. Donc on travaille beaucoup sur l'interdisciplinarité, c'est aussi l'intérêt de créer une telle fédération. Chacun des laboratoires travaille sur ces domaines, mais en se mettant ensemble, on va se rencontrer et on va pouvoir proposer des nouvelles choses par la rencontre des différentes spécialités académiques.
Comment vous favorisez les relations à distance, le travail à distance, parce que vous êtes tous un peu dispersés?
Valenciennes et Lille, c'est pas si loin que ça, donc on prend notre voiture ou le train très facilement pour aller se voir. On utilise aussi les moyens de communication numérique sans problème. Bon, on se connaît bien, c'est pas d'aujourd'hui que ces laboratoires travaillent ensemble. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans un laboratoire puis qui sont allés dans un autre, donc il y a des liens de personnes aussi forts. Et au niveau structuration régionale, je pense que le début, ça a été le programme TACT, qui était un des projets du contrat projet et ta région, ta plan et ta région à l'époque, au début des années 2000. Ensuite, il y a eu le contrat de plan ou projet, c'était au moment où ça a changé, et ta région à nouveau, CISIT, qui a vraiment lancé des grands équipements. Donc il y a eu des constructions de bâtiments, des grands équipements expérimentaux qui ont été acquis grâce à ce programme-là. Et là, on rentre dans le programme, le troisième de la série, ELSAT 2020, qui a démarré en 2015 et qui va se terminer en 2020-2022. Donc ça fait presque 20 ans qu'on a une histoire commune, donc on sait travailler ensemble sans problème.
Est-ce que le fait que vous vous déplaciez pour vous rencontrer et que vous forcément tombez sur des problèmes liés aux bouchons ou des choses comme ça, ça vous amène à être plus réactif, à mieux comprendre des situations, à vouloir en sortir le plus vite possible?
Pour certains collègues, peut-être. Il y a effectivement un des axes de recherche qui concerne l'optimisation combinatoire, c'est-à-dire justement toute cette gestion de flux, trouver les meilleures routes, trouver les meilleures... les meilleures heures de départ, les meilleurs circuits pour déposer des marchandises ou des personnes. Ces gens-là sont, je pense, effectivement très influencés par leur expérience quotidienne.
Il y a une unité qui est chargée d'optimiser le GPS, justement, pour trouver les solutions les plus adaptées.
Alors, sur le GPS en tant que tel, on a des gens qui s'intéressent à améliorer la précision du positionnement GPS, ici, sur le campus de la Cité Scientifique. Hein, donc... c'est des recherches d'ailleurs qui sont menées entre Cristal, l'IEMN, le LAMI. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une précision beaucoup plus fine sur le placement sur la localisation des différents véhicules pour pouvoir optimiser leur trajet, pour pouvoir optimiser les communications entre les véhicules aussi, pour pouvoir, quand il y a un accident par exemple, positionner plus précisément le message d'alerte qui dit à l'endroit où il y a l'accident pour que les services de secours arrivent plus vite. Voilà, donc on travaille sur le positionnement, la localisation précise. Pour faire des flottes de véhicules aussi, il faut qu'ils sachent très précisément où ils se trouvent les uns par rapport aux autres. Et puis on travaille aussi sur l'optimisation des circuits, l'optimisation des flux. Et donc là, c'est d'autres équipes qui travaillent sur cet autre problème qui est assez différent.
Voilà, vous pourriez aussi employer des communicants pour mieux connaître au niveau des villes les nouveaux plans de circulation, comme à Lille, où ce n'est pas complètement intégré toujours sur les GPS.
Oui, alors on a aussi des solutions intéressantes. Vous connaissez peut-être l'application Waze. Waze qui est une application de GPS communautaire qui utilise ce qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire l'information qui vient de la foule. Oui. Donc quand on se déplace, on renvoie tous une partie de l'information. Et donc dans le laboratoire Cristal, il y a une équipe qui travaille sur la récupération par une foule de personnes. Donc chacun avec son smartphone peut envoyer... des tonnes de capteurs et peut renvoyer cette information et en faire quelque chose globalisé à partir de toutes ces petites informations identiques. Et donc on a créé une start-up, cette équipe a créé une start-up l'année dernière, Crowdify, sur justement l'exploitation de ces données personnelles, enfin c'est pas des données personnelles, captées personnellement par chacune des personnes, par les smartphones, les capteurs qui sont dans les smartphones de chacun pour en faire des utilisations communautaires.
Voilà, donc la géolocalisation ne sert pas que les patrons qui fliquent leurs ouvriers, leurs employés, mais ça sert aussi à collectivement trouver des solutions, c'est ça ?
Exactement, exactement, c'est ça l'idée.
Bah, c'est l'idée, il ne faut pas que ça que ça soit perverti. Alors, donc on a bien compris les enjeux de votre organisation, votre fédération de recherche CNRS Transport Terrestre et Mobilité. Pierre Boulet, quelles sont les perspectives sur ces prochaines années ? Qu'est-ce que vous avez en chantier ? Qu'est-ce que vous auriez peut-être comme rencontre, comme rendez-vous avec le public pour qu'il soit peut-être mieux au courant de ce qui va se passer, voire qu'il interroge, voire même qu'il questionne sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, fasse part de ses idées, pourquoi pas.
Alors bon, le premier événement, c'est dans 2 jours, on va inaugurer la fédération. Donc là, on va communiquer plutôt au monde académique. Ça va se passer vendredi après-midi à 14h dans l'amphithéâtre de l'IEMN, ici, sur la cité scientifique. Après, on essaye d'être présent dans les journaux d'information quand on a des résultats remarquables, sur les salons aussi. Le salon européen sur le ferroviaire se passe tous les ans à Lille et on va être présent sur ce salon, etc. Donc on essaye, effectivement, la communication est importante et on essaye d'être présent pour communiquer avec le grand public aussi.
Est-ce que vous cherchez en tant que laboratoire des personnes qualifiées en tant que chercheurs, voire même d'autres types de personnel ?
Oui, bien sûr, on recrute très, très régulièrement des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ingénieurs, des techniciens pour nous aider dans nos recherches. Oui, oui.
Vous faites ça sur un appel ouvert ou bien ça reste dans des réseaux
Ça dépend des types de contrats sur lesquels on a les financements. Quand on cherche des CDD, ce sont des appels très ouverts. Mais bon, évidemment, quand on cherche des chercheurs, on interroge les réseaux des doctorants, des jeunes docteurs, etc. Quand c'est des postes de chercheurs au CNRS, par exemple, ou dans les enseignants-chercheurs dans les universités, ce sont des postes des concours de la fonction publique.
Est-ce que les universités lilloises arrivent à satisfaire une partie, une grande partie ou une moyenne petite partie des gens que vous cherchez ?
On essaye de recruter à l'extérieur, principalement. Globalement, je pense que dans le monde de la recherche, on pense que la mobilité entre différents endroits, pour voir différentes habitudes, différentes problématiques, différentes façons de travailler, est très importante pour la qualité de la recherche qu'on mène. Donc on est très ouvert à des recrutements à l'extérieur.
Et une fois qu'on est, j'allais dire, installé dans un des pôles qu'on a cités, est-ce qu'éventuellement, être mobile et aller voir ailleurs ce qui se passe, ça peut faire partie aussi du jeu ?
Ah, tout à fait, tout à fait. On a plein de chercheurs qui vont voir ailleurs. Là, dernièrement, on a un maître de conférence qui vient d'être recruté à Stockholm. On a un professeur et un maître de conférence qui ont été débauchés par Google DeepMind en Angleterre. Voilà, donc on a la mobilité. On est aussi fiers quand nos chercheurs vont voir ailleurs dans des établissements ou des entreprises prestigieuses.
Alors, Pierre Boulet, on entend bien, et c'est la deuxième fois pour moi, la passion qui vous anime. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette passion ?
La curiosité. D'une part la curiosité, d'autre part l'envie de résoudre des problèmes. J'aimais bien résoudre des puzzles quand j'étais enfant. Et au-delà de ça, trouver des solutions génériques à la résolution des puzzles. Et voilà, donc c'est cette curiosité qui mène à faire de la recherche par la suite.
Mais on vous souhaite bon vent, trouvez bien, parce qu'on a besoin de beaucoup de solutions. Et je pense que l'avenir ne peut pas faire sans vous et sans vos équipes. Merci beaucoup.
Merci à vous.